1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, chers amis, à l'occasion d'un anniversaire, les 50 ans de l'homme qui a marché sur la Lune, nous recevons Alain Siroux, notre consultant ciel et espace, et le journaliste, chef du service reportage Jean-Philippe Ballas. Tous les deux publient un livre passionnant, mélange de science, de témoignages, d'archives, d'émotions, Les hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo aux éditions du Seuil. Les hommes de la Lune et tous ceux qui y ont cru aussi, qui les ont suivis, tous ceux qui y ont vu une certaine folie et qui ont fait en sorte que ce moment demeure à jamais historique. Ils étaient astronautes, cosmonautes, écrivez-vous, ingénieurs, artistes, leaders, et chacun raconte son bout d'histoire qui fit cette grande histoire. Et nous, avec Julie, jusqu'à 11h, on vous propose de reformer et revivre cette aventure tous ensemble sur Europe 1 avec vos témoignages, n'hésitez pas, et vos souvenirs.
Au 39-21.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et ravi de vous retrouver, chers amis. Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Wendy, merci de nous accueillir.
Et Alain Siroux, bonjour cher Alain.
Bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous.
Bravo pour ce livre truffé d'archives formidables, couleur sépia. On est vraiment dans la réussite, dans le leg aussi. Et on revit avec émotion et on va y aller dans le détail cette nuit du 20 au 21 juillet 1969. Évidemment, vous vous deviez d'offrir pour un tel anniversaire un ouvrage, mais vous souhaitiez qu'il vive justement par le souvenir qu'il laisse dans tous les esprits, le souvenir des premiers pas sur la Lune. C'est pour ça que ces témoignages sont si importants, Jean-Philippe Ballas.
On a voulu faire un livre à hauteur d'homme avec Alain, parce que c'est vrai qu'on a tous cette image d'un scaphandre, d'un drapeau américain, mais on ne voit pas finalement les visages de ces astronautes. Si je sors dans la rue maintenant, Wendy, avec une photo de Neil Armstrong, je vous garantis que personne dans la rue ne reconnaîtra le premier homme sur la Lune. C'est ça qui est assez paradoxal. Et puis c'est vrai qu'on a tous un souvenir, en tout cas pour ceux qui étaient nés en 1969, c'est la première fois qu'on peut se dire « je me souviens de l'endroit où j'étais au moment où ». Et en plus, c'est vrai que c'est un événement plutôt heureux, c'est assez rare dans l'histoire de l'humanité.
Et vous avez ce gimmick qui ponctue un certain nombre de chapitres, je me souviens justement, et vous donnez la parole à Bertrand Piccard, à Ryan Gosling, à Jane Baez, à Sting, à Jean-Luc Chrétien, à Hubert Reeves, à Anki Bilal. Vous avez choisi ces personnalités l'un et l'autre. Alors vous étiez pendant un certain temps correspondant aux États-Unis, oui. Jean-Philippe, vous avez eu justement un intérêt aussi pour ces échos que vous pouviez recueillir là-bas.
Alors c'est vrai qu'avec Alain, on a choisi des gens soit qui sont en rapport direct avec cette conquête spatiale, Hubert Reeves effectivement, Bertrand Piccard, parce que quand Bertrand Piccard, donc le grand explorateur
de Solar Impulse,
quand il était gamin à 11 ans, il vivait à Cap Canaveral parce que son père travaillait pour une des entreprises qui travaillait pour la NASA.
Évidemment,
donc il a eu cette chance inouïe, gamin, d'assister au lancement d'Apollo 11. Alors, pour la petite histoire, son instit lui avait donné l'autorisation exceptionnelle de sécher les cours, à condition qu'il puisse faire un exposé ensuite à ses camarades.
Ouais.
Donc, il avait un petit dictaphone avec lui. Il a enregistré le lancement d'Apollo 11.
Génial. Oui, Alain Siroux.
Et les astronautes venaient chez lui, parce que son père était copain avec les astronautes. Le grand-père, c'est le professeur Tournesol, quand même. Hein.
C'est lui qui a inspiré
Piccard,
ce professeur.
Donc il raconte que finalement, comme les astronautes venaient chez lui, les légendes venaient chez lui. Donc, la légende... Et l'exploit, c'est quelque chose de normal. Donc pour lui, l'exploit, l'aventure, c'est du quotidien.
Alors il y a ceux qui l'ont vécu, mais il y a ceux que l'aventure folle a fait rêver après. Je pense à celui qui préface, Alain Siroux, votre ouvrage, c'est Damien Chazelle, réalisateur de La La Land, mais surtout, pour ce qui nous concerne, de First Man, qui pour le coup n'était pas né dans les années 60, mais qui a grandi avec une image, voilà comment il l'a décrit avec vous, celle d'une réussite sans faille, une mission parfaitement maîtrisée, presque facile, tant ces astronautes avaient des allures de super-héros.
Oui, parce que son film, First Man, et cette tentative, réussie pour moi en tout cas, de rendre finalement ce que disait Jean-Philippe, c'est-à-dire la hauteur d'homme pour le premier homme à avoir marché sur la Lune.
Neil Armstrong, oui.
Et donc Neil Armstrong. Et c'est, je dirais, il n'y a pas de suspense. On sait qu'il débarque sur la Lune, il n'y a pas d'accident, mais simplement, ce personnage est un personnage qui va continuer et qui nous intrigue toujours. C'est-à-dire que suivre Armstrong, c'est finalement suivre une énigme, un mystère, le mystère d'un homme qui sait piloter avant de savoir conduire une voiture. C'est le mystère d'un homme qui ne dit pas grand-chose et toujours dans l'anecdote, hein, mais un jour, il est avec son fils en Nouvelle-Zélande, dans une boutique, et il y a le responsable de boutique qui le regarde et lui dit « Mais vous ressemblez beaucoup à Neil Armstrong. » Et la réponse d'Armstrong, dite par son fils, c'est « Oui, ça m'arrive. » Mais vous voyez, c'est-à-dire que le personnage nous échappe, et en tant que personnage qui n'a pas de, je dirais, de consistance historique. Le pape, c'est le pape. Hein. Je veux dire, quand on rencontre Armstrong, on rencontre quelqu'un qui a marché sur la Lune. C'est le premier. C'est celui, c'est le seul, on le dit d'ailleurs, que c'est le seul à qui, lorsqu'on serre la main, on regarde le pied.
On regarde le pied, ouais. vous
Donc, vous voyez bien,
très bien
qu'il a une dimension qui est tout à fait différente. Et Armstrong, finalement, va nous servir de guide dans l'histoire de la Lune parce que c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de passion. Et il a fallu des hommes exceptionnels, on s'en rendra toujours compte, pour réussir ce qui s'est fait à ce moment-là.
Vous parlez du premier homme, du dernier homme aussi, Jean-Philippe Ballas, dans cet ouvrage, vous voulez réagir.
Et c'est vrai, ce qui est dingue, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'est un discours de Kennedy en 62 qui dit « On va aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » En 62, on y est en 69, ça se fait en 7 ans et on part d'une page blanche. Imaginez aujourd'hui, le moindre objectif qu'on se donne, c'est toujours à 10, 20, 30 ans.
Sauf là, quand on s'appelle Donald Trump.
Voilà, par exemple, on y reviendra sans doute. Là, on le fait à 7 ans, c'est quand même une époque, vous prenez n'importe quel téléphone portable dans ce studio, il est plus puissant, plus perfectionné que les ordinateurs de la NASA à l'époque. Les ordinateurs modernes n'existent pas. Le fait de voler, le simple fait de voler pour l'homme, c'est quand même relativement nouveau. Et ces hommes vont se mettre en haut de gigantesques fusées dans des capsules absolument minuscules et ils vont partir sur la Lune.
Non, mais c'est incroyable parce que ça reste encore de la science-fiction quasiment. Événement relayé évidemment sur l'antenne d'Europe 1 dans cette nuit du 20 au 21 juillet 69. Vous étiez nombreux, bien davantage que les 1 million de curieux massés sur les plages de Floride. Écoutez.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Okay.
L'homme est à la Lune !
J'ai pas le feu en toucher. Le contact bleu s'est allumé sur le tableau de bord. Vous entendez ici l'applaudissement. À l'heure précise, le 20 juillet 1969, alors qu'ils étaient partis depuis 14 jours, depuis qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune.
L'homme a atteint la Lune, le cri d'Albert Ducrot qui vous fait sursauter encore, que vous avez entendu enfant, Alain Siraud.
Absolument, moi j'avais la chance d'être devant le poste.
Déjà.
Mes parents avaient acheté la télévision pour regarder marcher l'homme sur la Lune. Donc il y avait ces deux mystères. La télé qui arrivait dans les campagnes, qui était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis on était en direct avec la Lune, c'était incroyable. Ce qu'on voyait ressemblait à pas grand-chose, hein, parce que c'était des formes un peu fantomatiques. Donc la radio était allumée. Mmh. Et Albert Ducrot, donc, qu'on connaissait depuis quelques années, depuis de nombreuses années sur Europe 1 pour commenter les exploits spatiaux, a eu ce cri « L'homme est à la Lune !» et est tombé de sa chaise, m'a-t-on dit plus tard, parce que c'était quelque chose qui était un aboutissement absolument incroyable. Dans la nuit douce de ce mois de juillet 1969, eh bien, il se passait quelque chose. On voyait la Lune dehors, on la voyait, on pouvait l'observer.
C'était incroyable.
Et en même temps, on était en direct avec elle. C'était extraordinaire.
3h56, vous étiez debout, donc tout minot, mais vous avez veillé. Hein.
Oui, les parents nous avaient laissé regarder
comme
la télévision.
Comme beaucoup, n'hésitez pas à nous raconter ces souvenirs, ou en tout cas ce qu'on vous a raconté à l'époque, si vous n'étiez pas né, sur ce moment d'histoire que racontent si bien Alain Siraud, Jean-Philippe Ballas dans Les Hommes de la Lune, préface de Damien Chazelle aux éditions du Seuil, ce livre qui nous réunit jusqu'à 11h ce matin. Avec vous, Julie, vous nous donnerez aussi vos souvenirs, ma chère. Je sais que vous en avez.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. 50 ans après, que retient-on des premiers pas de l'homme sur la Lune, Wendy Bouchard?
On en parle avec Alain Siraud, Jean-Philippe Ballas, les auteurs de Les Hommes sur la Lune, les enfants de la génération Apollo, avec des images d'archives qui agrémentent ce formidable ouvrage. Tout commence le 16 juillet 69, non loin de Cap Canaveral. On assiste au lancement de la fusée qui va propulser ces hommes dans l'espace. Ils sont trois, mais ils seront deux à marcher sur la Lune. On va parler de ce troisième homme, lui qui est resté justement dans ce vaisseau tournant autour de la Lune. On est dans un contexte évidemment de guerre des étoiles et les Américains marquent l'histoire et gagnent ce symbole-là, alors que ce sont les Russes qui quand même ont envoyé le premier homme dans l'espace, il faut le rappeler, Alain Siraud.
Ah oui, c'est même d'ailleurs, je dirais, la raison première de l'existence des hommes sur la Lune, de la mission Apollo.
Et de l'audace de Kennedy, vous le rappelez.
Les premiers, et c'est une surprise, ce sont les Soviétiques. Et ces Soviétiques envoient d'abord Spoutnik. Et Spoutnik, c'est une vraie révolution. Même les Soviétiques sont surpris que, comme dira Khrouchtchev plus tard, un petit machin comme ça envoyé dans l'air qui fait bip bip, fait la une de tous les journaux. Ils n'en reviennent pas. Et Khrouchtchev comprend qu'il tient là un motif de propagande extraordinaire pour l'État nouveau qu'est l'Union soviétique et demande, exige que tout de suite on continue. Donc c'est la petite chaîne Laïka, un mois plus tard, après Spoutnik qui arrive dans l'espace. Et puis après Laïka...
Il ne reviendra pas, hein.
elle ne reviendra pas. Mm. Et puis le premier homme, quand Gagarine part, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à estimer ses chances de succès, mais on estime qu'elles étaient inférieures à une chance sur deux. Quand il est parti dans l'espace, et Gagarine, il fait quoi? Il fait le tour de la Terre en une seule fois et il retombe, comme disait Coluche, en Union soviétique. mais pour les Américains, c'est une claque monstrueuse. C'est-à-dire que cette nation apparaît en disant « le premier cosmonaute de l'humanité, regardez le triomphe sur les États-Unis », lesquels tentent d'ailleurs de lancer eux aussi une fusée à ce moment-là. Et on a une explosion sur le pas de tir, on appelle ça un « flopnik ».
Un flopnik.
Un flopnik dans la presse américaine. Et je dirais, tout le monde est pris à la gorge en se disant, les Soviétiques ont de l'avance sur nous, aux États-Unis, et il faut relever le défi par quelque chose d'encore plus fort. D'où le discours de Kennedy de, finalement, aller encore plus loin, plus compliqué, plus difficile.
Avec, je cite, faire atterrir deux hommes sur la Lune et surtout les ramener sains et saufs
sur la
Terre.
Avant la fin de la décennie. Ouais. Et c'est le programme Apollo qui va finalement s'architecturer sur toutes les années 60 où on va voir d'abord des hommes tenter d'aller dans l'espace, ensuite tenter de se déplacer, de faire des rendez-vous avec les vaisseaux spatiaux, d'essayer de vivre, de manger, de dormir. Personne ne savait à quoi ça ressemblait. Mmh. Et puis finalement de prendre la direction de la Lune. Le tout, comme disait Jean-Philippe, en 7 ans, 8 ans,
c'est
pas
incroyable,
plus.
C'est incroyable.
À bord d'une fusée.
En connaissant quand même la technique de l'époque, c'est ça, et c'est ce que dit Damien Chazelle qui prépare ce bouquin, c'est que le plus fou, c'est qu'ils ont fait ça, cet exploit, il y a 50 ans.
Ça paraît dingue, et c'est vrai que, puisqu'on parle des Soviétiques, quand vous leur parlez de ce premier pas sur la Lune, alors d'abord, eux, ceux qu'on a interrogés pour le livre, vous disent d'abord Gagarine. Hein, Yuri Gagarine, le seul vrai héros pour eux dans l'espace, c'est lui, c'est le premier à y être allé. Alors c'est vrai que moi, je m'imaginais au départ une vraie guéguerre, évidemment, la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais j'imaginais aussi une guéguerre entre astronautes américains et cosmonautes russes. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu que pas du tout.
Ils se respectent, vous voulez dire,
oui. Alors on a notamment le témoignage de Jean-Luc Chrétien. Alors, intéressant, Jean-Luc Chrétien, c'est notre premier spationaute. Hein. C'est le premier non-russe et non-américain à être allé dans l'espace. C'est en 82 avec Soyouz.
Oui.
L'intérêt de Jean-Luc Chrétien, c'est qu'à la fois, il a volé avec Soyouz et il a volé avec la navette américaine en 86. Donc, il connaît les deux côtés du miroir. Et il vous dit que d'un côté comme de l'autre, il y a un profond respect entre cosmonautes et astronautes, que les cosmonautes ont suivi le premier pas sur la Lune, qu'ils ont applaudi aussi les Américains, qu'ils étaient très admiratifs. Il y a Leonov, notamment, alors Alain en parlera sans doute, qui devait être le premier russe sur la Lune, qui devait être un peu le Neil Armstrong soviétique, mais qui regardait tout ça, qui échangeait beaucoup. Il y avait beaucoup plus d'échanges qu'on ne croyait entre Américains et Soviétiques. Et un vrai respect mutuel, une vraie folie, j'ai envie de dire, parce que c'était il y a 50 ans, mais une vraie envie d'aller là-haut.
Ça veut dire qu'il y a une réaction officielle de la part des Russes lorsque Apollo 11 a atteint son objectif dans la nuit du 20 au 21 juillet 69?
Pas tellement, en fait. Non. Ils sont restés extrêmement discrets. Dans la Pravda, il y a eu cette annonce que les Américains avaient réussi, mais il y avait un dessous des cartes, comme on dit. C'est-à-dire, et on l'a découvert plus tardivement, mais Kennedy avait proposé aux Soviétiques d'y aller ensemble, par trois fois.
Ah, ouais.
Et la dernière fois que Kennedy a proposé ça à Khrouchtchev, c'était quelques jours avant son assassinat à Dallas. Et donc, Kennedy savait que c'était bien sûr une course, mais que cette course pouvait être aussi l'objectif, l'idée d'une réconciliation. Mmh. Et c'est ce qu'on verra à la fin du programme. À la fin du programme Apollo, on aura le fameux Apollo-Soyuz, où les Américains et les Soviétiques vont se réconcilier dans l'espace en accrochant deux vaisseaux spatiaux, le premier américain et le second soviétique, avec à l'intérieur notre fameux Léonov, dont parlait Jean-Philippe, Alexei Léonov, l'homme qui devait marcher sur la Lune pour les Soviétiques, et puis des Américains. Donc on a un dessous des cartes qui montre que c'était officiellement une compétition, mais en réalité, c'était sans doute plus complexe que cela.
Oui, mais c'est très fort aussi de rappeler que cette réconciliation a pu avoir lieu à 380 000 km et quelques de la Terre. On va revenir maintenant sur cette nuit folle avec ces deux hommes qui pose le pied sur la Lune, avec ce troisième homme qui reste dans le module de commande Columbia. Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas nous éclaire sur cette conquête de la Lune et sur ces souvenirs si marquants que vous pouvez aussi relayer sur l'antenne d'Europe 1. On vous attend avec Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Bah, on y reste sur la Lune, on est dans la Lune, Wendy.
Ah, on est dans la Lune avec Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, qui sortent aujourd'hui ce livre formidable sur les enfants de la Lune, la génération Apollo en question, cet astre qui fascine toujours autant, décidément. N'hésitez pas à nous donner aussi vos souvenirs de ce premier pas sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. On suit avec vous cet alunissage historique et c'est très bien écrit. En ce 20 juillet 69, commandant de bord d'Apollo 11, Neil Armstrong a pris sa place dans le module lunaire. En compagnie de Buzz Aldrin, il s'apprête à entamer la descente historique. Eagle est conçu pour être piloté à l'envers, debout, tête en bas, retenu par des bottes en velcro. Et c'est dans cette position qu'Armstrong prévient la Terre, l'aigle a des ailes. La séparation entre les deux vaisseaux s'est faite en douceur quelques instants plus tôt, et comme le prévoit le plan de vol, Neil allume le moteur de descente qui fonctionne pendant 30 secondes pour freiner le module lunaire et l'amener au-dessus de la mer de la tranquillité. Il y a cette descente, il y a ces 2h30 ensuite que vont passer ces deux hommes sur le sol lunaire. Racontez-nous ce moment d'histoire où, pour la première fois, Neil Armstrong pose le pied sur cette terre lunaire.
Ils se sont posés dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 et c'est vrai que on peut dire que 500, 600 millions de personnes, de téléspectateurs, on ne sait pas exactement, ont retenu leur souffle à ce moment-là. Vraiment, la Terre s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. Parce qu'on savait que c'était exceptionnel. Ces hommes qui débarquaient sur la Lune, comme nous, avaient lu Jules Verne. Mmh. Et on vivait finalement le passage d'une histoire, d'un mythe, d'un récit de fiction à une réalité. Les hommes qui vont se poser sur la Lune, c'est une première. Personne n'a jamais tenté. C'est quelque chose d'extraterrestre au sens propre. Ces trois hommes sont tous différents. Il y a quelque chose qui les réunit. Ce sont des hommes, tous, une quarantaine d'années, des blancs, des pilotes. Ils ont le vol dans la peau. On dit d'Armstrong, d'ailleurs, qu'il était vraisemblablement quelqu'un qui était plus fait pour voler que pour marcher sur la Terre. Ils vont s'approcher petit à petit de la Lune. Un est resté en orbite autour de la Lune, c'est Aldrin. C'est Collins,
Collins pardon, oui.
L'émotion.
Dans la navette Columbia.
Et il tourne autour de la Lune pendant que le LEM, qui ressemble à une araignée, un scarabée, descend doucement vers la Lune avec une alerte, une alarme. Tout. C'est l'ordinateur qui dit attention, je suis saturé. On se demande, on se questionne, on regarde les alertes. Et puis finalement, on décide de faire à la NASA, qui pilote le vol à distance, même si Armstrong est aux commandes, l'impasse. On continue. Et on a ce suspense qui va durer plusieurs minutes de la descente de cet engin absolument incroyable, le LEM, le module lunaire, vers le sol rocailleux, martyrisé par les bombardements de météorites, jusqu'à s'approcher très très près, et puis là, dans un nuage de poussière, se poser.
Boom, il se pose. Combien de temps met-il pour descendre de Columbia jusque sur la Lune?
Ils mettent à peu près une vingtaine de minutes pour entamer la descente.
20 minutes les plus longues de l'histoire.
Il y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et on voit bien, on suit d'ailleurs à Houston le battement de cœur des astronautes. Et
qui accélère.
Vous avez ces enregistrements.
Évidemment. Armstrong regarde par le hublot et tout d'un coup a décidé de reprendre à la main le pilotage. C'est-à-dire qu'il va se poser à la main comme un pilote. C'est pas les ordinateurs qui le posent. Il n'y a pas la capacité. Mais c'est lui qui, à un moment donné, repère un caillou. Qui
se pose pas là où c'était prévu d'ailleurs.
Et pas, oui, complètement. Puis il y avait une petite improvisation. Il y avait un caillou qui avait la taille d'une maison. Il n'était pas question de se poser dessus ou à côté. Donc il le pilote très doucement pendant que Aldrin donne le compte à rebours finalement de la quantité d'essence qui reste dans le LEM.
Et Aldrin, il a le doigt sur un autre bouton si jamais ça tourne mal pour pouvoir repartir en l'air. C'est vrai qu'on parle assez peu de cet épisode, mais il a pris la main, Armstrong, pour l'atterrissage du module. On a dit que c'est des pilotes de chasse, c'est aussi des pilotes d'essai. Et ça, c'est quand même une dimension supplémentaire. C'est que c'est des gens qui volent sur des engins qui n'existent pas encore. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant avec Neil Armstrong, c'est que c'est un aficionado de la simulation qui tourne mal. C'est-à-dire qu'il adore quand il y a un problème dans les simulations, dans les phases d'entraînement. Alors je sais qu'Aldrin, ça l'agaçait un petit peu, parce qu'Aldrin n'aimait pas trop se planter, parce qu'il y avait toujours des ingénieurs de la NASA qui a regardé autour. Mais Armstrong, lui, partait du principe que on n'apprend guère que de ses erreurs. Et donc, plus il y avait d'erreurs, plus il y avait de crash lors des simulations, plus il apprenait sur le fonctionnement de ses machines.
Et il y en a eu.
Et ça lui a servi, puisqu'effectivement, c'est ce qui lui a permis de poser sans trop d'encombre le module lunaire.
Et puisque vous parlez de crash, il y a évidemment un scénario du pire qui est envisagé. Hein.
Oui,
et si ce module lunaire se crashait, et si ces deux hommes n'arrivaient pas à repartir du sol lunaire, on apprend grâce à vous que ce scénario est très élaboré parce qu'on aurait commencé à couper les communications publiques entre Houston et la Lune, et puis on aurait convié un prêtre.
Oui, on aurait convié un prêtre pour parler avec eux. Il ne faut pas oublier que au moment où les hommes se sont posés sur la Lune, il y a eu quelques heures entre le moment où ils se sont posés et puis la descente, Aldrin a fait la messe sur la Lune.
Ah
on
ne
l'a
bon
pas su, ce n'était pas retransmis.
C'est-à-dire ?
Mais il avait amené un petit calice, il avait amené un peu de vin, il avait amené une hostie, et il a fait tout seul la messe dans le lemme lunaire pendant que Armstrong préparait la sortie. Donc il y avait un côté profondément religieux chez les astronautes, en tout cas chez Aldrin, pas seulement, mais qui aussi était dans la symbolique. Donc ils avaient tenu compte de cela, il était prévu qu'un prêtre puisse intervenir en cas de problème. Le président des États-Unis, Nixon, avait un discours
qui était prêt au cas où.
Ouais. Et puis, bon, bah, on leur a demandé souvent s'il y avait du cyanure à bord en cas de difficulté. Et Aldrin a dit, vous savez, c'était très simple, il suffisait d'ouvrir la porte. Donc, l'affaire aurait été réglée très vite.
Un raisonnement et une aptitude, justement, au pire et à l'inconnu qui était assez énorme. Plusieurs minutes, donc, lorsque le petit vaisseau, le module lunaire se pose avant que les hommes ne sortent de module pour poser le pied sur la Lune.
Alors,
et à ce moment-là, on a ces premières images.
Oui, ça va durer des heures en fait.
Des heures.
Oui, parce qu'on va beaucoup s'embêter à la télévision ce soir-là.
Oui.
Pour tous ceux qui l'ont vu, on se souvient qu'ils se sont posés dans la soirée, on n'avait pas d'image, mais on a attendu des heures jusqu'à 3 heures du matin, bon, 2h50 et quelques, pour finalement voir une ombre sortir. Ils se sont reposés, ils ont endossé leur scaphandre, et finalement la descente a eu lieu vers 3 heures du matin avec ce mot « Restez célèbre, un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité.
A tout de suite sur Europe 1. On retrouve jusqu'à 11h Wendy Bouchard et ses invités. Nous recevons Alain Sirou et Jean-Philippe Ballas qui sortent ce livre au seuil. Le livre paraît aujourd'hui d'ailleurs. Les hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo. Et dans ce livre, des témoignages de personnalités qui racontent leur 21 juillet 1969. J'ai ouvert le livre à la page de Sting. Alors Sting nous dit « Je voyageais avec des amis en Irlande du Nord et nous n'avions pas de quoi nous payer l'hôtel. J'étais allongé quelque part sur un terrain de golf à la Belle Étoile. Le ciel était dégagé, nous regardions la lune et il me semble bien que nous étions ivres. Mais je vous promets que ce soir-là, nous avons vu les astronautes en direct de là où nous étions et rire, entre parenthèses, précise dans le texte. »
Parce qu'il a écrit plus tard, effectivement,
voilà, « Walking on the Moon » avec cette idée d'être léger. Tomber amoureux, c'est comme marcher sur la lune. Être débarrassé de la pesanteur. C'est une belle image. Et bien sûr, cet événement a été très important. C'était un changement majeur pour nous tous. Soudain, nous étions sur la Lune. Eh oui, nous sommes tous citoyens du monde des enfants de la génération Apollo. Vous avez rencontré Sting et vous avez ces témoignages sur la longueur enregistrée qu'on vous livrera bientôt sur le site d'Europe 1.
J'aime aussi beaucoup le témoignage de John Baez, parce qu'à l'époque, elle est déjà célèbre, elle a 27 ans. C'est assez court, elle dit que, bien sûr, en tant que poète, elle a toujours eu une relation très particulière avec la Lune, mais elle se souvient que ce jour-là, elle s'est disputée avec son père. Parce que son père, lui, comme beaucoup d'Américains, était très fier que des scientifiques réussissent à envoyer l'homme sur la Lune, et elle était en colère parce que pendant ce temps, des gens mouraient de faim au pas de sa porte. Voilà, on dépensait des millions pour aller dans l'espace, et alors que la misère, la guerre étaient tout près de chez nous. C'est ça aussi qu'on a voulu montrer dans ce livre, parce que cette mission Apollo, elle fait beaucoup discuter déjà à l'époque. Il y a beaucoup de gens pour, il y a beaucoup de gens qui rêvent, et puis il y a des gens qui sont contre, et il y a même des gens qui n'y croient pas.
Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui n'y croient pas alors ? Est-ce que vous en parlez dans le livre ?
Alors oui, on en parle un petit peu avec Alain. Alors, personnellement, j'ai regardé sur Internet les 2-3 gros documentaires qui remettent en doute. Hein. Alors, on dit qu'en gros, ça a été tourné sur une base américaine.
En studio, quoi.
En studio, voilà. Alors, il y en a même certains qui disent que c'est Stanley Kubrick qui a
tourné. Pour faire ça, c'est un CD7, très bien.
Oui, parce que Stanley Kubrick avait, un an auparavant, il avait sorti 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film majeur, magnifique. La preuve, c'est que vous le regardez 50 ans plus tard. Il a quasiment pas pris une ride. Et c'est vrai que les ingénieurs de la NASA étaient soi-disant bluffés et que, alors ça c'est la part d'humour, Kubrick aurait dit « Ok, je vous fais le premier pas sur la Lune, mais à une condition, c'est qu'on tourne sur la Lune, par souci de réalisme. » Voilà. Mais c'est vrai que la NASA, par rapport à ses théories du complot, la NASA a toujours eu un peu trois comportements. Soit on dit rien, Soit on fait pas de commentaires, mais dans ces cas-là, les gens disent un silence qui en dit long. Soit on se fâche. Alors c'est arrivé parfois. On sait que Buzz Aldrin, notamment, a donné un coup de poing à un partisan de la thèse du complot. Mais dans ces cas-là, les complotistes disent ouais, s'ils sont en colère comme ça, c'est bien qu'ils ont quelque chose à cacher. Et puis il y a la troisième voie qui, à mon avis, est plus juste. Et elle l'a fait il y a pas longtemps, la NASA. C'est la voie pédagogique. Il y a eu notamment assez récemment un joueur de la NBA dans une interview radio qui a dit premier pas sur la Lune, on ne sait pas trop. C'était un peu ambigu comme propos.
Oh, 50 ans après, quand
voilà.
même.
Voilà, sauf que la NASA, elle sait que ce joueur de la NBA, il y a plein de gamins qui l'écoutent, bah donc il ne faut pas le plaisanter avec ça. Donc elle s'est empressée de publier un communiqué en disant à ce basketteur : nous serions ravis de vous accueillir à Houston, de vous faire visiter tous nos laboratoires lunaires, de vous faire toucher les roches lunaires qu'on a ramenées de là-haut, parce que oui, c'est quand même la preuve la plus claire, Alain. On a rapporté des roches de la Lune.
Oui, près de 400 kilos et c'est ce que finalement...
Près de 400 kilos pour cette mission Apollo 11 ?
Non, pour l'ensemble des missions.
D'accord.
Cette mission en a rapporté une dizaine, si mes souvenirs sont bons. Il fallait faire vite, hein. Ils sont restés que quelques heures sur la Lune.
2h30 sur la Lune.
Voilà, alors que les plus longues missions sont restées plus de 3 jours. La dernière en particulier avec un géologue à collecter des cailloux. Et la plupart de ces cailloux, au moins 80% de cette collecte, est encore à Houston, dans un local qui a été construit exprès, totalement sécurisé, avec une atmosphère particulière, pour les analyses du futur. Parce que aujourd'hui, on considère que c'est tellement précieux que on ne dispose peut-être pas encore de tous les outils pour analyser ce qu'ont ramené les hommes
d'accord,
de la Lune.
D'accord.
Et savez-vous que on ne sait toujours pas exactement comment s'est formée la Lune autour de la Terre.
Mais en vrai, de toute façon, cette mission Apollo 11, ce n'était pas pour amener des cailloux, c'était pour amener des hommes sur la Lune, pour qu'il y ait cette image symbolique et forte quand même aussi d'une conquête.
C'est évident. C'est d'abord, effectivement, de montrer que ce sont les premiers. Ils ont battu les Soviétiques. Mais vous savez que les scientifiques sont les passagers clandestins de toutes ces expéditions. Donc si on peut ramener des cailloux, si on peut rattraper des morceaux de soleil, parce qu'on a déployé... Le premier drapeau déployé sur la Lune est un drapeau suisse.
Ah bon ? Hein ?
Oui, parce que finalement, ce qu'on a déployé d'abord, c'est une expérience scientifique qui cherchait à collecter les petites particules qui viennent du Soleil. C'était fabriqué par un scientifique suisse, le professeur Geiss, et qui avait demandé que tout de suite, dès qu'Armstrong sortait, il déploie ça. C'était une sorte de petite épuisette, en quelque sorte, qui avait la forme d'un drapeau. Et dedans, il y avait un petit drapeau suisse, mais chut,
j'allais pas le dire. On parlait des cailloux lunaires juste avant une petite pause. Vous avez avec vous un document authentique. Alors, c'est une photocopie, mais d'un document authentique.
Oui.
Alain Sirou, c'est comme un papier de douane, finalement.
Bah, l'administration, c'est l'administration.
C'est incroyable,
y compris à la NASA.
Ils sont déclarés à la douane.
Moi, j'ai trouvé une déclaration de douane, donc de l'État d'Hawaï. Lorsque les astronautes sont revenus de la Lune, on leur a fait remplir à Honolulu.
Mais non.
Une déclaration disant, voilà, nous arrivons de... D'où arrivez-vous nous arrivons de la Lune. Qu'est-ce que vous transportez? Alors, des roches lunaires, de la poussière lunaire et puis d'autres petites choses. Et puis, on signe, etc. Et il y a le tampon qui dit, ben voilà, ils sont arrivés de l'extérieur. Ils ont pénétré aux États-Unis.
Voilà. On va parler justement après la pause de la mise en quarantaine de ces trois hommes parce qu'on ne savait pas très bien d'où ils revenaient et ce qu'ils avaient côtoyé pendant ces quelques jours passés dans l'espace. À tout de suite sur Europe 1 avec les hommes de la Lune et ceux qui les écrivent et qui les font vivre, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas.
Comment les Américains, avec leur mission Apollo, ont marqué l'histoire ?
Ils nous font rêver, il y a des choses totalement saisissantes. Vous disiez pendant la pause, Alain Sirou et Jean-Philippe Ballas, vous qui publiez aujourd'hui aux éditions du Seuil Les Hommes de la Lune, qui a quand même... Un truc incroyable, c'est de regarder la Lune le matin et se dire, bon, tout à l'heure, on part.
Oui, d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'était lors d'une mission, une des premières, d'ailleurs, Apollo 8, qui a tourné autour de la Lune en décembre 68, donc peu de temps avant. Le commandant de bord dit, j'ai vraiment pris conscience qu'on partait pour la Lune au moment où je rentrais dans la capsule. C'est incroyable.
Mais oui, parce que c'est de la science-fiction, pardon.
Parce que c'est de la fiction.
Ouais. Comme vous écrivez, moi, ce qui me fascine, c'est le retour. Le retour que vous décrivez, le vaisseau Columbia, donc ils ont passé 8 jours dans l'espace, le 24 juillet 69, le vaisseau qui a mérité dans le Pacifique. L'engin qui s'est débarrassé de son module de service plonge, écrivez-vous, à 40 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, freine grâce à son bouclier thermique, puis déploie ses parachutes avant de toucher l'eau à 32 km/h. Les astronautes, aidés par des plongeurs, vont sauter alors dans un petit bateau, enfilent des vêtements isolants et des masques filtrants et seront transportés en hélico à bord du porte-avions USS Hornet avant leur mise en quarantaine dans un petit caisson, quoi, ouais. Jean-Philippe Ballas.
Il y a une, photo, super que, une photo que j'adore, hein, qu'on a mis dans le livre. Vous avez donc ce caisson métallique avec une petite lucarne. On voit, on voit Aldrin, Armstrong et Collins. Ils sont littéralement hilars. Ouais. Ils rigolent bien. Et puis juste à côté de
ils sont face à Nixon, quand même.
Voilà, Nixon qui les regarde, qui rigole aussi, voilà, hein, du reste. Hein, c'est vrai. Ils vont rester un peu plus de 2 semaines dans ce caisson.
2 semaines dans le caisson, parce qu'on craint quoi ?
On craint, parce qu'on ne sait rien de la Lune, on craint qu'il ramène une bactérie ou une maladie inconnue lunaire qui puisse, lunaire entre guillemets, qui puisse envahir la Terre. Donc on fait une quarantaine en se disant, voilà, on va attendre, voir comment ils sont. Pour eux, c'est un peu les vacances quand même, parce qu'ils ont tellement travaillé. Des années d'entraînement. La mission, c'est une pression considérable, colossale. Et là, ils reviennent, ils n'ont plus rien à faire. Oh, c'est beau. Bah
18 jours dans un caisson, c'est quand même pas le plus sympa. Quand même.
Non, mais ça va les reposer pour quelque chose d'encore plus difficile qui va les attendre et pour laquelle ils n'avaient jamais été entraînés ni préparés. C'est finalement la visite d'une quarantaine, voire d'une cinquantaine de pays pour aller serrer des pognes, faire des bises, signer des autographes, etc. etc.
Jouer les ambassadeurs de la Lune.
Les ambassadeurs de la Lune.
Ouais. Alors, vous avez chacun votre préféré. Bon, vous êtes deux, ils sont trois, mais c'est pas grave. On va trouver une... on va départager. Neil Armstrong qu'on connaît le mieux, Buzz Aldrin, et vous, c'est le troisième homme qui n'a jamais mis le pied sur la Lune, c'est Mike Collins.
Moi, j'ai une tendresse particulière pour Mike Collins. C'est quand même, à ce moment-là, l'homme le plus seul de toute l'humanité. C'est-à-dire que on regarde, on guette le moindre geste saccadé de Armstrong et Aldrin sur la Lune, et pendant ce temps, il y en a un, il fait des révolutions autour. Alors, une révolution dure 2 heures. Il y a 13 minutes pendant lesquelles il survole, il est un peu dans la zone d'Armstrong et Aldrin. Ouais. Et puis sinon, il disparaît du côté de la face cachée de la Lune, c'est Mike Collins.
Et personne ne s'intéresse à lui, quand même. Voilà. On surveille, mais bon.
Et c'est quand même un moment particulier parce que à ce moment-là, si jamais il se passe quelque chose avec Aldrin et Armstrong et que ça tourne mal, bah Collins, il rentre tout seul. Et c'est quand même sa grosse angoisse. Donc, il est tout seul avec ses ordinateurs autour de lui, dans la capsule. Il fait beaucoup d'humour. C'est quelqu'un de très drôle, Mike Collins. N'empêche que au moment où enfin il récupère Buzz Aldrin et Neil Armstrong, il est profondément soulagé. Alors il prend la tête d'ailleurs de Buzz Aldrin. On a l'impression qu'il va l'embrasser et puis il ne le fait pas parce qu'on est quand même entre hommes astronautes, entre militaires.
Il ne fait pas une zizou-barthèse, mais
voilà.
Le cœur y était. Quoi,
il se retient juste à temps, mais c'est vrai que Mike Collins, qui est quand même celui, bah oui, il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas marché, mais il a pris son rôle très à cœur. On n'a jamais tellement réussi à le coincer du reste là-dessus. Il y a beaucoup de journalistes qui nous ont demandé, mais quand même, vous n'êtes pas descendu jusqu'en bas, quand même, il y a une frustration. Il a toujours tenu bon là-dessus, Mike Collins. C'est pour ça que c'est un peu mon préféré.
Vous l'avez rencontré, vous, Mike Collins, Alain Sirou ?
Non, j'ai longuement rencontré Aldrin. Et puis par deux fois Armstrong et Aldrin dont je veux parler.
Aldrin, c'est votre chouchou, quoi.
Ah bah, c'est le petit,
et complètement foutraque.
C'est le vilain petit canard, Aldrin. Oui. C'est celui qui. Alors, sa maman s'appelait Marion Moon.
Ah, c'est
drôle.
Ah,
joli,
Moon,
hein,
la Lune. Ouais,
exactement. Et en fait, il est jugé arrogant par beaucoup de gens. Y compris par les astronautes. Il y a un de ses collègues qui dit « C'était sans doute un gars intelligent avec un doctorat en rendez-vous spatiaux, mais il se pensait plus intelligent qu'il ne l'était réellement. » Et en fait, il était arrogant et surtout, son comportement agaçait beaucoup de gens à la NASA parce qu'il voulait être le premier à marcher sur la Lune. Donc, il s'est battu pour ça. En fait, c'est un compétiteur. Sa femme dit de lui si Buzz était éboueur et qu'il ramassait les ordures, alors il serait le meilleur ramasseur d'ordures des États-Unis. Donc, c'est un bagarreur. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, va être le complémentaire, je dirais le contraire d'Armstrong, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement féru de technique et qui est,
Il est son complémentaire très, très drôle, quoi. Il y a quand même une photo dans ce livre, on dirait le professeur de Retour vers le futur, Buzz Aldrin, il a des grosses lunettes avec un t-shirt Destination Mars, il est en pleine forme.
On l'a un peu perdu à l'époque. Mais on descend pas indemne, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant sur la différence incroyable entre Neil Armstrong et Buzz Aldrin.
Il vit encore, hein.
Oui, et finalement on comprend pourquoi, avec le recul, pourquoi la NASA a dit, bah non, ça sera Neil le premier à descendre, parce que Neil, il a garder la tête sur les épaules jusqu'au bout. Il faut bien comprendre que quand ces types-là redescendent de la Lune, ils peuvent tout faire. Donc Neil Armstrong aurait dit, bah, finalement je vais me présenter à la Maison Blanche, bah, il était fichu d'être élu.
Un héros.
Voilà, il aurait pu faire
un nombre de pubs incroyables, faire le tour du monde, faire des conférences extrêmement lucratives. Ce que Buzz Aldrin a fait, Buzz Aldrin, lui, il a vécu un petit peu comme une rockstar.
Et continue à faire.
Voilà, alors que Neil Armstrong était beaucoup plus en retrait.
Mais ouais. Y en a, alors, qui est mort, qui est vivant là Ils sont tous vivants?
Alors, Armstrong est mort, Aldrin et Connie sont vivants. Mmh. Et on se réfère souvent aux marcheurs lunaires, c'est-à-dire les gens qui sont allés sur la Lune et qui ont marché. Il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune et il en reste encore 4 de vivants. Donc, ce sont des personnes qui ont plus de 80 ans aujourd'hui, mais qui pour certaines sont, comme Aldrin, on dit toujours, en activité, au sens où elles se déplacent, elles font beaucoup de conférences, font de l'action pour faire connaître cela. Mais c'est vrai que c'est une génération qui disparaît.
Et oui, c'est pour ça que c'est bien de la faire revivre avec cet ouvrage notamment qui sort aujourd'hui, Les Hommes de la Lune aux éditions du Seuil et Les Enfants de la Génération Apollo, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, La Lune qui fait toujours rêver, preuve en est l'actualité, on vous en parle tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Europe 1. Je peux poser une question stupide?
Oui,
je le ferai après
dans 30
disque,
secondes, voilà.
D'accord.
She the guide on the moon. No hope she will be back soon. She's free, she defies the law of gravity. She can become your best friend if you look her by the sky each night. But in your dreams, see the guy on the moon, a guy on the moon. No,
girl on the moon. C'est vrai qu'il faudrait une femme un jour sur la Lune.
Alors, on a dit qu'il y en avait 12 hommes qui se sont posés sur la Lune, 4 encore vivants. Et votre question stupide,
alors,
allez-y.
Alors ma question, pour que Collins puisse quand même marcher, il était si près du but. Pourquoi ils n'ont pas échangé à un moment? Aldrin serait remonté dans le truc qui tournait autour de la Lune.
Oui, tout c'est
et
très
puis,
facile.
Et Collins descendait.
Oui, mais il n'y a pas de piste de décollage sur la Lune. C'est-à-dire que pour repartir, finalement, le vaisseau lunaire, le module lunaire, transportait, je dirais, sa plateforme d'atterrissage et de décollage. Donc quand ça repartait, le vaisseau en forme de scarabée se coupait en deux et hop, ça, il remontait, mais laissait sur la Lune la plateforme qui avait permis d'atterrir et de redécoller.
Ah, ça pouvait se faire qu'une fois, donc.
C'est pas la fusée
étincelle. Et il était d'accord sur la mission Mike Collins, on vous promet, Julie. Il n'était pas si frustré que ça, quoi.
C'est terrible.
Mais certains sont allés, certains sont allés deux fois autour de la Lune et ne se sont jamais posés.
Bah oui, pensez à eux. Ah oui. En tout cas, Girl on the Moon, parlons d'une femme, peut-être, la prochaine personne à marcher sur la Lune. C'est ce qu'a annoncé l'administrateur de la NASA.
C'est juste pour
le principe.
Non, c'est pas seulement pour le principe. Vous savez qu'il y a eu un équipage de femmes qui a été préparé pour aller sur la Lune, mais que l'idée a été abandonnée dans les années 60. Parce qu'on voulait effectivement des pilotes d'essai. Et les pilotes d'essai étaient des hommes. Donc aujourd'hui, effectivement, ça change. La Lune redevient une destination. D'abord parce que Mars est loin. Mars est compliqué. Oui. Parce qu'on ne sait pas faire. Oui. Parce que ça coûte cher. Parce que c'est dangereux et qu'il faut ramener les hommes et les femmes en vie. Ça, c'est un impératif. Oui. La Lune, c'est à côté, 3 jours de voyage. Les Chinois ont dit qu'ils allaient y aller et ils ont mis en place un système qu'on connaît et qui devrait amener des taïkonautes sur la Lune en 2030.
Taïkonautes, ça fait un autre mot, ouais.
Voilà,
en fonction du pays.
Aux environs de 2030.
Qui se poseraient sur la Lune aussi
Qui se poseraient sur la Lune. Oui, actuellement, ils ont des robots qui se posent un petit peu partout sur la face cachée récemment. Mm-hmm. Il y a des petits engins qui roulent sur la Lune. On revit en quelque sorte.
Il y a une nouvelle conquête spatiale. Regardez Israël, ils ont envoyé avec leur petit vaisseau baptisé Bereshit, une sonde, un premier selfie avec la Terre à 36 000 km de la planète. Donc ils y sont allés, les Israéliens aussi, l'Inde.
Mais ce n'est plus nécessairement une course. Le moteur qui était au centre finalement de l'histoire d'Apollo, c'est-à-dire la compétition Est-Ouest avec l'Union soviétique, a disparu. Aujourd'hui, on est plus dans la démonstration de technologie, la démonstration qu'on est capable de le faire, mais il n'y a plus cette course. Donc les Chinois ont dit qu'ils y allaient, mais finalement, il n'y a pas de raison de se précipiter, puisqu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de raison réelle. Oui. Donc, on va avec des moyens publics et des moyens privés sans doute revenir sur la Lune, comme finalement une plateforme avant d'aller vers Mars
c'est ça.
Pour le 22e siècle.
Pour construire une base peut-être, et là Donald Trump veut aller assez vite, hein. Il veut allouer un budget à la NASA avant l'année prochaine.
C'est ce qu'il dit, mais c'est celui qui dit qui y est.
Bah, oui. En tout cas, vous ne cesserez de propager cette bonne parole, c'était un plaisir Jean-Philippe Ballat, j'imagine, de travailler sur ce livre-là, je vais vous laisser le mot de la fin avec tous ces témoignages éclairants. Vous qui n'avez pas vécu le premier pas sur la Lune.
Je suis né 9 mois plus tard. Vous laisse en tirer toutes les conclusions que vous voulez.
Bon, au lieu de regarder la Lune,
c'est ce que vos parents ont fait. Hein. Il n'était pas très assidu. Hein.
Moi, j'ai une petite image très courte. C'est quelques années après la mort de Neil Armstrong, il y a sa veuve qui fait un peu de rangement dans leur maison de l'Ohio. Et puis elle retrouve un sac au fond d'un placard, un sac de toile en blanc. Mmh. Elle appelle les gens de la NASA. Elle dit, voilà, j'ai retrouvé un truc, je ne sais pas ce que c'est. Il y a tout un bric-à-brac à l'intérieur. Évidemment, les gens de la NASA débarquent illico et ils retrouvent dans ce sac des petits bouts de câbles. En fait, c'est des pièces du module lunaire. C'est des pièces, il y a une caméra 16 mm, c'est des choses que Neil Armstrong a rapportées en douce de la Lune parce qu'ils n'avaient pas le droit de repartir avec du matériel. Il le dit d'ailleurs dans une conversation radio, bon, on a quelques petits trucs avec nous. Un trésor, évidemment, que vous pouvez voir maintenant aujourd'hui à Washington, au Musée de l'Air et de l'Espace. Je trouve que ça résume assez bien cette aventure et assez bien Neil Armstrong. C'est voilà, j'ai ramené un trésor de la Lune, mais je l'ai mis au fond d'un placard et j'en ai jamais parlé à personne.
Ouais, bien retranscrit aussi dans le film First Man de Damien Chazelle qu'on vous recommande. En plus de la lecture de ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions du Seuil, Europe 1 est très heureux d'être partenaire. Et c'est pas parce que vous êtes de très grands journalistes et de très grands amis de la maison, mais vous le méritez. Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, merci de cet éclairage pendant 7 heures. C'était passionnant. Vous serez ce soir au Salon du Livre. Et puis, on peut vous retrouver dans toutes les librairies. Ma chère Julie, c'était bon, hein ?
Ah, bah c'était très bien.
Ouais. Je vous dis à demain. Chers amis, merci de votre fidélité. À demain sur Europe 1.
C'était Wendy Bouchard.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.